Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 22 novembre 2022. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Seboudia. Tout d'abord les titres. Le Sénégal a sombré en fin de match hier devant les Pays-Bas pour son entrée dans le groupe A du Mondial 2022 au Qatar. L'Angleterre a écrasé l'Iran 6-2, tandis que les États-Unis et le pays de Galles se sont séparés sur un nul. À suivre aujourd'hui la Tunisie, l'Argentine et la France notamment. Le report des pourparlers sur la paix dans l'est de la RDC et aussi du sommet à Luanda des chefs d'État de la région. Au Mali, la junte au pouvoir interdit les activités des ONG financées par la France. Le Niger à la télécommande, pas la France, face aux djihadistes, assure le président Mohamed Bazoum. En Guinée équatoriale, pas de surprise, le président Teodoro Obangema en tête de la présidentielle. En Indonésie, poursuite des opérations de secours après le séisme qui a fait 162 morts. Tout de suite, le journal de la Coupe du Monde d'Eric Manirakidza. Le Sénégal, privé de son leader technique, la star du Bayern Sadio Mané, forfait en attente d'une opération du genou droit, a manqué de percussion en zone offensive. Les Pays-Bas ont ainsi arraché une victoire précieuse 2-0 en fin de match. Vous avez suivi ce match, Eric.
Tout à fait, Idrissa. La première véritable grosse affiche du tournoi de ce lundi opposait le champion d'Afrique, le Sénégal, aux Pays-Bas. Cette confrontation a tourné à l'avantage des Oranges qui ont arraché une victoire précieuse 2-0 en fin de match alors que les Lions avaient moyen de faire match nul. Ahmed Insy, qu'est-ce qui a manqué aux Lions de la Teranga?
Ce qui a manqué au Sénégal aujourd'hui, c'est l'efficacité, hein, puisque comme vous avez regardé le match, certes le Sénégal a perdu, mais le score ne reflète pas la physionomie quand même du match, parce que si on regarde les 90 minutes et le temps additionnel, le Sénégal a fait jeu égal avec la Hollande, le Sénégal a même dominé par moment son adversaire, mais le Sénégal a manqué d'efficacité.
Élisée Onkpatine est notre consultant sportif.
Moi, je n'accuserai pas, par exemple, le gardien de but, Edouard Mendy, puisque c'est vrai, d'aucuns diront que voilà, il a mal sorti, il n'a pas pu anticiper. Mais il faut aussi voir le départ de l'action, puisque le remplaçant d'Abou Diallo n'était pas vigilant, il n'était pas prompt, spontané.
Abdourahmane Dia, vous êtes à Dakar. Est-ce que les marabouts ont été moins forts aujourd'hui?
Ben écoute, si les marabouts étaient forts, on aurait gagné, on serait parti peut-être au second tour en 2018, on aurait fait mieux qu'en 2002, mais bon, peut-être qu'ils sont en train d'être, d'être de moins en moins bons, qui sait. Non, mais je pense que les Sénégalais sont un peu dans une position de résignation ce soir. Ils ont accepté la défaite.
C'était des extraits de la discussion de ce lundi soir dans Sporama. Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal après la défaite contre les Pays-Bas, en conférence de presse, a déclaré, je cite, « C'était un match de très haut niveau, très compliqué, mais plutôt équilibré. Selon moi, le score ne reflète pas la physionomie du match. On a eu deux ou trois opportunités, mais le football, c'est l'efficacité. Je suis très fier de mes garçons. À nous de bien nous préparer pour le deuxième match, qui sera déjà un match décisif. Le match contre le Qatar sera un tournant pour le Sénégal », a-t-il ajouté. Plus tôt dans la journée, l'Angleterre avait effectué une véritable démonstration offensive et parfaitement entamé son parcours en écrasant 6-2, une sélection iranienne qui s'est surtout distinguée en refusant de chanter son hymne national en soutien au soulèvement en cours dans son pays. Le match en soirée a livré son premier verdict sans vainqueur du tournoi. Les États-Unis et le pays de Galles se sont séparés sur un nul un partout pour leur entrée dans le mondial, avec l'ouverture du score des Américains par Timothy Weah le fils de George, qui avait brillé avec Paris Saint-Germain ou l'AS Milan avant de devenir président de son pays, le Liberia. Mais c'est Timothy, le fils, qui a inscrit le nom de la famille dans le livre d'or de la Coupe du Monde en ouvrant le score pour les États-Unis. Puis avant le match, l'équipe américaine a reçu un appel téléphonique d'encouragement de la part du président Joe Biden.
J'aimerais être là pour assister à votre match. J'aimerais vraiment aller les chercher, les gars. Jouez de tout votre cœur. On va y arriver. Je sais que vous le ferez. Je sais que vous le ferez. Et vous savez, pour vous et vos familles, vos coéquipiers et tout le pays vous encourage.
La suite de la compétition de ce mercredi dans ce commentaire de Jules Valentin Gouet.
La Coupe du monde de football est aussi, parallèlement à son statut de compétition suprême par excellence pour les nations, la grande tribune planétaire où se retrouvent tous les 4 ans les meilleurs joueurs du monde afin de redessiner le gotha de la hiérarchie mondiale des talents individuels du moment. La grande parade des postulants sérieux à cette distinction a commencé hier avec l'entrée en lice des Pays-Bas de De Jong et de l'Angleterre d'Harry Kane qui a pulvérisé d'entrée l'Iran par le score sans appel de 6-2. Ce mardi, c'est le gros de la troupe qui va passer, à commencer par l'étoile argentine Lionel Messi pour son dernier tango, la Coupe du Monde étant le seul trophée majeur qui lui manque pour rejoindre Pelé et Maradona au sommet de l'Olympe. Le malchanceux polonais Robert Lewandowski et l'ambitieux français Kylian Mbappé entrent aussi en jeu. En attendant jeudi, le meneur brésilien Neymar Junior qui s'est enfin assagi. Au niveau du continent africain, meurtri par la défaite injuste du Sénégal lundi, la Tunisie qui entre en jeu contre une solide formation du Danemark comptera une fois de plus sur la qualité de son jeu collectif pour être au niveau des débats. Mais il lui faudrait un joueur décisif ou alors en état de grâce en attaque pour faire mieux. Alors croisons les doigts et à demain.
À noter, les Anglais comme les représentants de 6 autres pays européens avaient annoncé leur intention de porter le brassard coloré One Love, symbole d'inclusion, mais après discussion avec la FIFA, ces pays ont renoncé à quelques heures du coup d'envoi de ce lundi.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité, en République démocratique du Congo, les pourparlers pour tenter de ramener la paix dans l'est du pays n'ont pas eu lieu hier à Nairobi, au Kenya, ni le sommet des chefs d'État de la région prévu à Luanda. Ces rencontres ont été reportées alors que les affrontements ont repris de plus belle, non loin de Goma et d'Isango.
Le report de ces rendez-vous à une date qui n'est pas encore fixée a été annoncé. Le président du Kenya, William Ruto, qui dirige la communauté des États de l'Afrique de l'Est, était hier lundi à Kinshasa où il a rencontré son homologue Félix Tshisekedi. Le chef de l'État kenyan a annoncé que la force régionale se déploie dans l'Est de la RDC avec pour mission d'imposer la paix et non de maintenir la paix. Sa présence à Kinshasa a été l'une des raisons des reports des rencontres de Luanda et Nairobi. Le report n'est pas dû à une quelconque raison politique, mais au simple besoin d'harmoniser les calendriers. Calendrier des chefs de l'État a fait savoir à VOA Afrique la porte-parole du président Félix Tshisekedi. Après Kinshasa, William Ruto a pris l'avion pour la Corée du Sud. Sur le terrain, les affrontements intenses ont repris dimanche autour de Kibumba, à près de 20 km de Goma. Les rebelles du M23 affirment avoir pris d'autres localités. L'armée soutient en avoir récupéré certaines.
Au Mali, la junte au pouvoir a annoncé hier soir l'interdiction des activités de toutes les organisations non gouvernementales financées ou soutenues par la France, y compris celles opérant dans le domaine humanitaire. Les relations entre les deux pays, on le sait, se sont détériorées depuis plus d'1 an. Le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, justifie cette décision dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux par l'annonce récente par la France qu'elle avait suspendu son aide publique au développement à destination du Mali. Le ministère français des Affaires étrangères avait invoqué le recours au groupe paramilitaire russe Wagner des autorités maliennes, ce que nie Bamako, qui parle d'instructeurs de l'armée russe déployés au nom d'une ancienne collaboration avec Moscou. Face aux djihadistes au Niger, la télécommande est entre nos mains, pas dans celle de la France, affirme le président Mohamed Bazoum dans un entretien avec un quotidien français. La présence militaire française au Sahel est de plus en plus critiquée dans la région. Mohamed Houmfa.
Avec la France, nous menons des opérations à notre frontière avec le Mali qui se passe dans d'excellentes conditions, a déclaré Mohamed Bazoum. Quand nous éliminons 16 terroristes le 11 novembre, en quoi cela pourrait-il provoquer un sentiment contre les Français ? Fait-il valoir ? Selon lui, une petite opinion à Niamey s'exprime par moments, mais ne mobilise pas les foules. Nous avons la télécommande entre nos mains. Elle n'est pas dans celle de la France, conclut-il. L'armée française a achevé en août son départ du Mali après 9 ans de présence. Vendredi à Ouagadougou, une manifestation contre la France a été dispersée par la police. Le lendemain, le premier ministre Apollinaire Kyelem de Tembela a critiqué des partenaires qui n'ont pas toujours été loyaux. Comment comprendre que le terrorisme gangrène notre pays depuis 2015 dans l'indifférence, si ce n'est avec la complicité de certains prétendus partenaires, s'est-il demandé dans sa déclaration de politique générale devant les députés sans citer de pays.
En Guinée équatoriale, le président Teodorio Obiang-Nguema, au pouvoir depuis 1979, se place en tête de l'élection présidentielle avec une large avance selon les résultats provisoires rendus publics lundi par le ministre de l'Intérieur. Très loin derrière, les opposants Andrés Essono Ondo de la CPDS, seul parti d'opposition qui ne soit pas interdit, et Buena Ventura Musui Asumu du parti PCSD obtiennent respectivement 1,34% et 0,35% des voix. Les résultats définitifs de cette élection à un tour seront officiellement rendus samedi 26 novembre. L'Afrique du Sud cherche urgemment des fonds pour financer l'achat de diesel pour atténuer les coupures de courant liées à des centrales à charbon vétustes, alors que ses réserves de carburant sont à plat. La Société nationale d'électricité, ESCOM, soutient n'avoir plus d'argent pour reconstituer les réserves de diesel pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2023, ce qui fait planer le spectre de graves coupures de courant. Le peu de stock dont nous disposons est soigneusement conservé pour les cas d'extrême urgence, affirme ESCOM. Au Maroc, l'opposant Mohamed Ziane, célèbre avocat et ex-ministre des droits de l'homme, a été arrêté et incarcéré lundi soir après avoir été condamné en appel à 3 ans de prison ferme. C'est ce qu'on a appris de sources judiciaires et auprès de son fils. En Indonésie, après le tremblement de terre à Java, les habitants paniqués sont en quête de refuge. Des blessés transportés sur des motos arrivent dans des hôpitaux parfois sans électricité. La ville de Cianjur, épicentre du séisme qui a frappé l'île lundi, a sombré dans le chaos et la peur. Les recherches de survivants se poursuivent. Le bilan provisoire est d'au moins 161 morts, Lionel Gahima.
Les 3 hôpitaux de Cianjur n'arrivent pas à faire face à l'afflux de plusieurs centaines de blessés. Les secours s'activent à l'extérieur de bâtiments. Des habitants transportent des corps à bord de pick-up ou des motos. Les coupures de courant empêchent les médecins de donner les soins nécessaires. Dans un autre hôpital, à Chiamankan, des victimes arrivent couvertes de sang. Des parents cherchent leurs enfants disparus. Plusieurs femmes âgées sont amenées sur des brancards dans les tentes vertes érigées devant l'hôpital. Le séisme a entraîné des glissements de terrain. Des bulldozers ont été mobilisés pour dégager les routes et des sauveteurs pour porter secours. Les recherches de survivants se sont poursuivies tard dans la nuit, alors que les habitants commencent à réaliser l'ampleur du désastre. Le bilan de cette catastrophe change d'heure en heure.
Dernière minute, une opération de sauvetage était en cours mardi au large de l'île grecque de Crète, après qu'un bateau avec jusqu'à 500 migrants à son bord a envoyé un signal de détresse, ont annoncé les gardes-côtes grecs.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Visite hier en RDC du tout nouveau président kényan, William Ruto s'est rendu à Kinshasa moins de 4 jours après la visite de travail de son prédécesseur Uhuru Kenyatta, facilitateur désigné dans le cadre du processus de paix de Nairobi. William Ruto a échangé avec son homologue congolais Félix Tshisekedi sur la situation de paix dans l'est de la RDC et des échanges commerciaux entre leurs deux pays. La visite de Ruto intervient dans un contexte sécuritaire très inquiétant dans l'est de la RDC, où de violents affrontements opposent l'armée congolaise et le mouvement rebelle du M23 soutenu par le Rwanda selon un rapport de l'ONU et le gouvernement de la RDC, ce que dément Kigali. De Kinshasa, notre correspondant Alex Kati Kataï.
C'est une quatrième haute personnalité africaine à se rendre à Kinshasa en une semaine. La visite du président kényan s'inscrit dans le cadre du processus de Nairobi qui vise à restaurer la paix dans l'est de la RDC. Selon le communiqué final de la rencontre de ce lundi matin entre le président Tshisekedi et Ruto, les deux hommes ont réaffirmé leur engagement à créer des conditions favorables pour le développement de la sous-région. Le Kenya et la RDC font partie de la zone de libre-échange africaine, les CAF, qui prône le libre commerce transfrontalier. Mais cette zone de libre-échange ne peut marcher que s'il y a la paix dans la sous-région, a précisé le président Félix Tshisekedi.
Nous avons donc comme mission de rendre ce projet viable, d'accroître les échanges entre États africains, d'accroître donc par-delà même la richesse en Afrique pour lutter contre les fléaux que sont la pauvreté, l'analphabétisme, le chômage et bien d'autres difficultés. Et tout cela, comme vous le savez, pour que ça marche, il faut que la paix soit une réalité, la sécurité et la stabilité, que cela puisse permettre donc à ce qu'on puisse mettre en œuvre ces politiques.
Pour trouver cette paix, les pays de la sous-région de l'Afrique de l'Est avaient décidé de l'envoi d'une force sous-régionale dans l'Est de la RDC. Et c'est le Kenya qui commande cette force. Son président a tenu à rassurer son homologue congolais de sa détermination à mener à bien cette mission. William Ruto.
Je suis venu confirmer à mon frère et au peuple congolais que le Kenya va jouer son rôle. Nous sommes en train de déployer nos troupes dans les zones convenues avec le gouvernement de la RDC et la région de l'Afrique de l'Est. Ce processus se poursuit. Le Kenya est engagé et nous allons prendre nos responsabilités et accomplir notre mandat comme indiqué dans l'accord sur la force régionale de l'Afrique de l'Est.
Selon la décision des chefs d'État de l'EAC, la force régionale devait traquer les groupes armés qui refuseraient le processus de Nairobi en déposant les armes et en retournant à la vie civile. Mais ce mandat offensif n'a pas été évoqué par le président kényan. William Ruto s'est contenté d'affirmer que les troupes kényanes viennent pour renforcer la paix dans l'est de la RDC.
Nous avons parfaitement conscience qu'il y a beaucoup de troupes de maintien de la paix en RDC, alors qu'il n'y a pas de paix à maintenir. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir un contingent pour imposer la paix au sein de la force régionale de l'Afrique de l'Est. C'est le mandat dans lequel les troupes kényanes vont opérer dans le cadre de la force régionale.
Initialement prévue pour ce lundi, la troisième phase des pourparlers de Nairobi entre le gouvernement congolais et les groupes armés est repoussée à samedi prochain. Le gouvernement congolais reste sur sa position, pas de réinsertion ni de mixage des groupes armés au sein des FRDC. Alex Kati Kataï, Kinshasa, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Burkina Faso, le Premier ministre a fait samedi sa déclaration de politique générale devant les députés de l'Assemblée de transition. Il s'est indigné du fait que certains partenaires ne jouent pas franc jeu avec le Burkina, bien que le pays soit attaqué depuis des années. Des réactions d'observateurs et d'analystes avec notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré.
À l'Assemblée législative de transition, le Premier ministre n'a pas mâché ses mots contre certains prétendus partenaires du Burkina, Apollinaire Kilem de Tambela.
Le Burkina Faso reste un pays ami pour tous les pays qui acceptent son amitié. Nous attendons cependant de chacun de nos partenaires qu'il soit loyal avec nous. Nous souhaitons donc une coopération sincère et franche. Nous pensons peut-être à tort que certains partenaires n'ont pas toujours été loyaux. Comment comprendre que le terrorisme gangrène notre pays depuis 2015 dans l'indifférence, si ce n'est avec la complicité de certains de nos prétendus partenaires? Où trouvent-ils les armes, les munitions, le carburant, l'argent qu'ils ont à profusion? Comment des pays qui ont le contrôle de l'espace avec des moyens modernes de détection ne peuvent-ils pas, s'ils sont nos vrais amis, nous donner les renseignements nécessaires sur les agissements et les mouvements de ces terroristes?
Une sortie qui ne passe pas selon Mamadou Savadogo, expert en sécurité.
On doit plaider dans cette optique de continuer à se victimiser en disant que si nous sommes dans cette situation, c'est parce que tel partenaire ne nous vient pas en aide de façon franche. Je pense qu'on doit s'assumer. Le Mali l'a fait. Et si on voit qu'il y a un partenaire qui ne fait pas notre affaire, et bien qu'on change de partenaire, qu'on ait le courage, clairement, de dire à ce partenaire, c'est bon, on arrête là et puis on continue à autre chose. Il faut qu'on ait un langage de vérité envers la population pour qu'on arrête ce jeu de cache-cache. Jusqu'à après 7 années de guerre, on ne peut plus continuer à dire qu'il y a des partenaires qui voient des groupes armés se déplacer et n'arrivent pas à nous avertir. Et où est notre souveraineté si après 7 années, on n'est pas en mesure de contrôler l'ensemble de notre territoire et qu'on confie le contrôle de l'ensemble de notre territoire à un partenaire? Et là, je suis toujours inquiet.
L'ancien député maire de Dori dans le Sahel pense que le tout sécuritaire ne marchera pas. Il faut aussi parler cohésion sociale. Aziz Diallo.
Nous avons eu un PSR1 qui avait quand même pris certaines articulations, notamment sur les questions de cohésion sociale. Mais j'étais surpris de voir que dans son discours, il n'y a eu quasiment aucune référence à ces questions de cohésion sociale. Et nous savons tous que si nous en sommes là avec le terrorisme, c'est parce que quelque part, il y a eu des manquements sur les questions de cohésion sociale, notamment les questions de cohésion entre les communautés et ainsi de suite. Et je ne suis pas satisfait, je suis même un peu inquiet.
Mettre fin au terrorisme au Burkina Faso, recouvrer l'intégrité territoriale du pays, améliorer la qualité de vie des Burkinabés, refonder la société, redonner la fierté et la dignité est un combat pour lequel le président Ibrahim Traoré en tout premier lieu et moi-même sommes engagés pour la victoire ou la mort, a réaffirmé le Premier ministre devant les députés qui ont adopté sa déclaration de politique générale. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
L'hôpital de district de Gorée, dans le sud du Tchad, fonctionne difficilement par manque d'énergie, d'eau potable et de moyens roulants. Les responsables de cet établissement sanitaire affirment avoir de la peine à couvrir les 22 centres de santé qui sont sous leur responsabilité. André Kodmadjingar, notre correspondant au Tchad, a visité cet hôpital qui prend en charge non seulement la population autochtone de Gorée, mais aussi les réfugiés et retournés centrafricains depuis 2013. Son reportage.
De la maternité gérée par 6 sages-femmes, dont une seule affectée par l'État, 2 recrutées par des partenaires et 3 sur le fonds propre de l'hôpital, au bloc opératoire, en passant par le laboratoire, le personnel a une seule plainte, le manque d'énergie alors que le plateau technique est bien en place. Docteur Kadebe Wawon est le médecin-chef de l'hôpital.
Au début, on avait un souci de groupe et dernièrement, il y a une vieille qui nous a pris avec un groupe. Jusqu'à là, la capacité n'arrive pas à couvrir la maternité et le bloc.
Le manque d'énergie handicape également le bon fonctionnement du service de laboratoire du hôpital, explique Patrice Noubina, technicien de laboratoire.
Pour le moment, l'examen de la biochimie, les appareils sont quand même installés. C'est par manque d'énergie que nous n'avons pas encore commencé à travailler sur cet appareil.
Le spécialiste de laboratoire précise par ailleurs qu'en dehors des examens pour déterminer les pathologies telles que le paludisme, la typhoïde, l'autodémoglobine et le rhumatisme, les autres examens se font à la demande des cliniciens.
Les examens qui sont beaucoup plus recommandés, c'est les VIH/SIDA, les tests de l'hépatite B, de l'hépatite C et les syphilis.
Le responsable de l'hôpital confirme les difficultés liées au manque d'énergie, à l'eau potable, mais aussi aux moyens roulants, alors que 3 ambulances sont garées à l'entrée de l'hôpital.
C'est un parc vieillissant.
Mais dernièrement, il y a quelqu'un, peut-être il trouve que nous stockons les véhicules uniquement, ils sont venus voler 2 portières, donc aucune ambulance ne fonctionne.
Docteur Madingay Kabo, médecin chef de district de Gorée, dit avoir des difficultés à joindre les 22 centres de santé du département de la Niapende qui sont sous sa responsabilité.
Nous avons toutes les difficultés, donc nous faisons avec les moyens de bord pour évacuer les malades, pour nos supervisions. Et l'accessibilité, je crois que jusqu'à là, même si certains centres sont accessibles, il faut vraiment faire le détour.
Dans ces conditions peu reluisantes, l'appui des partenaires du Tchad ne fait pas défaut. Le bureau régional de l'UNICEF, par exemple, débloque un fonds pour revitaliser le soin de santé primaire de l'hôpital de district de Gorée et certains centres de santé dans la zone. Dr Kefene Moudine, spécialiste de la santé maternelle, néonatale et infantile de l'UNICEF, il informe que son institution contribue aussi à la réduction de la mortalité néonatale dans la zone.
Dans l'enquête démographique de santé passée, il s'est avéré que tous les indicateurs de santé sont améliorés, mais la mortalité néonatale est restée statique. Ça n'a pas évolué. Et c'est pour cela qu'on a donné les matériels de réanimation du nouveau-né, des matériels pour faciliter l'accouchement, des petits appareils qu'on a donnés dans les centres de santé pour écouter le bruit de l'enfant, pour voir est-ce que l'enfant va bien ou pas.
L'UNICEF fournit également des intrants à l'hôpital de district, des aliments et des médicaments thérapeutiques pour la prise en charge des enfants malnutris. André Kotumadjingar, de retour de Corée pour VOA Afrique.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Ici aux États-Unis, les élections de mi-mandat sont à peine terminées, que toute l'attention se porte sur la course à la présidence de 2014. Un reportage de Michel Quinn de la VOA. Le récit est de Michel Joseph.
L'ancien président Donald Trump s'est déjà lancé dans la course. Il l'a annoncé la semaine dernière à ses partisans depuis sa luxueuse résidence en Floride. C'est sa troisième candidature à la Maison-Blanche.
Et nous allons rendre l'Amérique grande à nouveau. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse tous.
Quelques jours plus tard, le ministre de la Justice de l'administration Biden a nommé un avocat spécial chargé d'enquêter pour déterminer si M. Trump a joué un rôle dans l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 et s'il a détenu des documents classifiés après avoir quitté ses fonctions. Merrick Garland, procureur général des États-Unis.
I'm here today to announce the appointment of a special counsel.
Je suis ici aujourd'hui pour annoncer la nomination d'un avocat spécial dans le cadre de 2 enquêtes criminelles en cours qui ont reçu une attention publique significative.
Ces annonces interviennent après les élections de mi-mandat, où les démocrates ont créé la surprise en conservant une faible majorité au Sénat. Les républicains ont gagné le contrôle de la Chambre des représentants, mais de façon moins importante que prévu. Mais un Congrès divisé signifie qu'il sera plus difficile pour le président Joe Biden, un démocrate, de faire passer des lois pendant les 2 dernières années de son mandat. Le républicain Kevin McCarthy pourrait devenir le futur président de la Chambre des représentants.
Je suis fier d'annoncer que l'ère du Parti unique démocrate à Washington est terminée.
Certains républicains ont noté que les candidats soutenus par Trump n'ont pas eu les résultats escomptés compte tenu de l'impopularité de Biden, alors que les inquiétudes concernant l'inflation ont augmenté, le taux d'approbation de Biden a été sous les 40%. Certains leaders républicains ont fait savoir qu'ils s'opposaient à ce que Trump soit le candidat de leur parti à la présidence. Paul Ryan, ancien président de la Chambre, est un républicain. Il s'est exprimé dans l'émission This Week sur ABC.
Nous perdons probablement la Maison-Blanche avec Trump. S'il y a quelqu'un qui ne s'appelle pas Trump, je pense que nous gagnerons la Maison-Blanche.
Au cours du week-end, d'après un sondage instantané auprès de 15 millions de personnes, le PDG de Twitter, Elon Musk, a rétabli le compte de Trump. Le site avait banni Trump en 2021 après les émeutes au Capitole. Pour l'instant, Donald Trump dit qu'il s'en tient à sa propre plateforme de médias sociaux, Truth Social.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde de Firmin Koyaweda, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour en suivre de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.